Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agité du local, votre émission autour de l'actualité mayonnaise sur l'autre radio, à retrouver du lundi au vendredi à 12h15. Et nous sommes aujourd'hui, en l'occurrence, le mercredi 18 janvier. Au menu de cette émission, on va parler, vous allez rencontrer, peut-être découvrir, la nouvelle responsable du service vie associative et vie culturelle à Château-Gontier, Coralie Boucher, qui va nous expliquer un petit peu ses missions, son parcours aussi. Et on va retourner, mais en fait non, c'est une première dans cette émission, parler de l'émission de l'association Victimes et Prévention Pénale 53, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, la DAVIP 53, pour rappeler justement quelles sont ses missions, pourquoi ce changement de nom, l'importance aussi du déménagement de leurs locaux il y a quelques mois, ce que ça permet, et surtout les prochains projets pour cette année 2023. Et puis comme chaque mercredi tous les 15 jours, ne manquez pas non plus la chronique du FC Que Choisir, où on va parler d'une arnaque automobile ce midi à éviter. Ça, ce sera plutôt en fin d'émission. D'abord, si vous êtes dans le nord-ouest de la Mayenne ce midi, toujours difficile de circuler après les chutes de neige de cette nuit et de ce matin, notamment sur la départementale 31 dans les secteurs de la Baconnière, entre Laval et Ernée. Pour l'instant, aucun accident n'a été signalé, mais soyez prudents au volant. Ils manifesteront contre la réforme des retraites demain. En Mayenne, l'intersyndicale regroupant 8 organisations appelle à un rassemblement unique à 11h, place de la Trémoille à Laval. Ce sera demain, bien sûr. Conséquence de cette grève, le réseau des bus Tulle à Laval sera perturbé, au moins pendant la matinée. Aucun train ne circulera entre Rennes et Laval demain toute la journée. Le trafic, lui, sera perturbé entre Laval et Le Mans. Et si vous prenez les TGV, seulement 1 sur 3 sera en circulation. Autre conséquence, une cinquantaine d'écoles seront fermées selon le syndicat SNUDI FO 53 pour au total une centaine d'écoles impactées par cette grève. Un appel rejoint en Mayenne entre autres par la Ligue des droits de l'homme et les députés et membres de la NUPES dans le département. Vladimir Vinchon, élu Mayennais de l'année par le Rotary Club, résultat du vote des membres des 4 clubs du département. Le dresseur équestre a participé, entre autres, aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012 et à ceux de Tokyo en 2021. On l'avait d'ailleurs interrogé à ce sujet. Et il était plus récemment au championnat du monde de paradressage, c'était l'été dernier avec son cheval Pégase Mayenne. Il se prépare entre autres pour les championnats d'Europe cette année et aussi pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Je vous le disais il y a quelques minutes, une nouvelle tête au service vie associative et vie culturelle du pays de Château-Gontier. Il s'agit de Coralie Boucher qui prend la place de Benjamin Vinck en tant que responsable de ce service vie associative et vie culturelle. Elle est arrivée il y a un mois à peu près et n'est pas une inconnue dans la commune puisqu'elle connaît bien justement Château-Gontier. Elle va nous expliquer son parcours et ses missions.
Je suis originaire de Château-Gontier et donc j'avais envie de pouvoir venir et évoluer professionnellement sur ce territoire sur lequel j'ai grandi. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille dans des services vie associative et culturelle au sein de différentes collectivités et dernièrement j'étais notamment au sein de la ville de Sablé-sur-Sarthe, donc pas très loin, juste à côté. C'est un plus, c'est plus facile de s'adapter au territoire et puis du coup j'ai aussi pu vivre les événements du côté spectateur, du côté public, donc forcément c'est un plus, c'est plus rapide on va dire de s'adapter à un nouveau territoire quand on le connaît. Je pense à la Chalibaude que j'ai pu faire étant petite très souvent, au Quel Cirque aussi, où on a la chance de pouvoir profiter de spectacles dans un cadre magique. Dans le service, il y a un peu deux parties. Il y a la partie vraiment vie culturelle, donc avec Martine, on travaille sur les différentes programmations à la fois de la ville et de la communauté de communes. Et puis, il y a la partie vie associative, où là, on est plus axé sur la vie associative de la ville, avec l'accompagnement des associations dans leurs événements, dans leurs projets, mais aussi dans tout ce qui est réservation de salles au quotidien, la mise à disposition de locaux, etc. Donc, il y a vraiment deux volets avec la vie associative et la vie culturelle. Et souvent, ça se rejoint, mais il y a quand même deux compétences bien distinctes au sein du service. Justement, je dirais que c'est la période chargée puisque du coup, en ce moment, c'est surtout la culture qui prend un peu le dessus puisqu'on est en train de programmer tous les événements à venir pour cette année. Donc la Chalibaude, Quel Cirque, les Vendredis d'été, Je dirais que les deux volets sont différents. Après, forcément, sur la partie événementielle, culturelle, il y a toujours l'adrénaline de voir aussi ce sur quoi on a travaillé, l'accomplissement. Donc, c'est toujours motivant et ça motive d'aller au bout des projets. Et il y a la satisfaction de pouvoir avoir le rendu vraiment en fixe. Mais après, l'accompagnement des associations, c'est aussi quelque chose que je trouve très enrichissant et qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je pense qu'on va pouvoir aussi bien travailler.
Et là, le prochain événement sur lequel on travaillait le service, c'est bien la Folle Journée en Région qui sera de retour pour une troisième édition à Château-Gontier, les 28 et 29 janvier, au Théâtre des Ursulines et à l'Espace Saint-Fiacre. Il reste toujours des places que vous pouvez vous procurer justement auprès du Carré. Et pour toute autre question, en tout cas, vous pouvez contacter le service Vie Associative par mail à l'adresse vieassociative@chateaugontier.fr. On va parler, eh bien, là, non pas d'une association de Château-Gontier, mais d'une association départementale Victimes et Prévention Pénale 53. Ce sera juste après avoir écouté Lady Like Lily. Potatoes de Lady Like Lily, un nom aussi mignon, eh bien justement, que la musique que vous avez entendue, bien sûr. Il y a 6 mois, l'association Victimes et Prévention Pénale 53 prenait place dans de nouveaux locaux à Laval, plus grands, plus spacieux, et permettant justement de recevoir aussi les victimes et auteurs d'actes dans des conditions plus adaptées. L'occasion justement, 6 mois après, de voir comment ça se passe pour l'association, pour quelles sont ses activités, repréciser quelles sont ses activités, ses missions, justement, à la fois auprès des victimes et à la fois auprès des auteurs, avec sa directrice, justement, qui va nous présenter ceci, et aussi les futurs projets, bien sûr, pour cette nouvelle année 2023.
Je suis Valérie Moffron, directrice de l'association Victimes et Prévention Pénale 53 et juriste de formation.
Donc l'association qui a emménagé dans de nouveaux locaux à la rentrée scolaire en septembre 2022. Pourquoi c'était important déjà, petite question avant de commencer sur vraiment le cœur des actions de l'association, pourquoi c'était important de déménager ici dans ces nouveaux locaux ?
Alors nos anciens locaux que l'on a occupés pendant 16 ans n'étaient plus du tout adaptés au développement de notre association, que ce soit au développement de nos missions mais aussi du nombre de notre personnel, de salariés. Et donc il a été vraiment important de pouvoir évoluer à l'attention des usagers mais aussi de notre équipe et puis même des partenaires puisqu'on ne pouvait pas accueillir de partenaires à défaut de salles de réunion. Alors, on peut nous trouver au 117 boulevard Montmorency, c'est notre siège social. Et on pourrait bien sûr vous donner des renseignements concernant nos permanences extérieures, puisque l'on intervient en tout sur 11 lieux du département de la Mayenne.
On va d'abord rappeler peut-être ce que c'est l'association Victimes et Prévention Pénale 53. Déjà, vous êtes combien de salariés à travailler ici? Et comment se partagent peut-être les deux pôles entre justement celui plutôt dédié aux victimes et celui plutôt dédié aux auteurs?
Alors, l'association existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant en Mayenne. Et effectivement, elle s'appelait auparavant Association départementale d'aide aux victimes. Elle ne mettait en valeur que cette facette-là de notre travail d'aide aux victimes. Alors que depuis plus de 20 ans, on intervenait aussi à l'attention du public auteur. Notre vocation historique, je dirais, c'est d'apaiser les situations, de contribuer à la réparation des victimes et de prévenir la primo-délinquance, le premier passage à l'acte, mais aussi la récidive. Et donc, on exerce pour cela grâce à deux pôles complémentaires qui sont donc l'un dédié effectivement à la prise en charge du public victime et l'autre à la prise en charge du public auteur. Et ces deux pôles sont animés par 8 salariés, 3 principalement affectés au premier pôle et 3 à l'autre, auxquels donc, s'ajoute aussi donc, la présence bien sûr de notre secrétaire et de moi-même.
Justement, sur ce premier pôle victime, pourquoi est-ce qu'on peut faire appel à vous et quelles sont vos principales missions, justement ?
Alors, nos missions historiques, c'est en fait de proposer de l'écoute, du soutien, de l'information juridique, de l'accompagnement aussi, même psychologique, à toute personne qui peut être exposée à une infraction pénale, mais aussi, par exemple, un événement collectif, type accident de car scolaire, comme celui survenu à Changé l'an dernier ou cette année à Saint-James-le-Robert. Voilà, on peut faire appel à nous. C'est parfois même, d'ailleurs, nos partenaires qui nous sollicitent pour intervenir sur les lieux et sur le champ même immédiatement lorsque les faits sont commis. En tout cas, voilà, on a vraiment ces fonctions-là d'écoute, de soutien, d'information, etc. Indépendamment même de tout dépôt de plainte préalable, hein, les gens vraiment peuvent venir nous voir dans une première intention sans même savoir si finalement elles opteront pour le fait de déposer plainte ou non. Et puis les gens peuvent venir nous voir à tout moment. Peu importe que les faits aient eu lieu la veille, il y a des semaines, il y a même des décennies parfois, vraiment, il peut y avoir une pertinence à cela. Donc on peut donc là mettre à disposition nos juristes, notre psychologue, on a une travailleuse, quelqu'un ici du travail social aussi, et donc c'est une vraie possibilité. Et en plus de ces missions classiques, je dirais, on est référent pour pouvoir évaluer le besoin qu'il y aurait, par exemple aussi, de donner un téléphone grave danger ou un bracelet anti-rapprochement à des personnes qui justement seraient en souffrance et dans le besoin de protection.
Plutôt dans le cadre, j'imagine, de violences intrafamiliales au sens large. Je crois savoir que vous êtes systématiquement, en tout cas, associé à ce dossier-là par le tribunal judiciaire de Laval.
Tout à fait. Madame la procureure de la République, qui a pris ses fonctions donc il y a là quelques mois, a décidé de recourir désormais systématiquement à nos services dès lors qu'il y a une situation de violence intrafamiliale. Donc nécessairement, par le biais des forces de l'ordre ou par le biais de son service du parquet, on est nécessairement saisi. Et donc il nous appartient dans ces cas-là de prendre contact avec les victimes concernées par les situations, de nous mettre à leur disposition, de leur proposer justement un échange et donc, selon que la situation s'y prêterait, contribuer à la remise du téléphone ou du bracelet anti-rapprochement, et puis après assurer bien sûr tout le suivi derrière pour garantir une présence en continu selon qu'il y a tout besoin qui viendrait à se présenter.
Sur l'année 2022, je ne sais pas si vous avez les premiers chiffres, mais combien de victimes avez-vous accompagnées ?
Alors, on atteint quasiment à nouveau 1200 victimes l'an dernier. C'est dans la continuité vraiment de toutes les années précédentes. Et s'agissant du profil qui se dégage, là également, c'est dans la continuité des autres années, à savoir que pour 70% des personnes que l'on prend en charge, il s'agit de gens qui ont subi des atteintes justement à leur personne, que ce soit des violences, des faits d'infraction sexuelle, type agression sexuelle, viol, faits de harcèlement, harcèlement aussi. Et le reste de ces prises en charge concernent des gens qui ont pu subir des faits de vol, de dégradation, etc. En tout cas, la proportion est la même. Et donc, d'année en année, on a aussi à peu près 40%, un peu plus de 40% des situations qui concernent justement des situations dans le cadre de la famille, que ce soit conjugale ou famille élargie.
Finalement, on peut faire appel à vous à quel moment d'une procédure ou d'une procédure judiciaire?
Alors, ça peut être vraiment à tout moment, je dirais même, alors qu'il n'y a pas encore de procédure judiciaire, par exemple. Il est important de préciser que parfois, ça peut être des proches aussi qui nous sollicitent. Donc, ce n'est pas forcément les victimes directes, mais des victimes indirectes, amis, famille, voisins. Et donc, ce sont des fois des personnes qui se posent des questions parce que, voilà, elles ont repéré quelqu'un de la famille, par exemple, ne va pas bien et qu'elles supposent, admettons, des violences, justement, au sein du foyer. En tout cas, donc, il peut arriver aussi que les gens nous sollicitent alors qu'ils viennent de déposer plainte et que, admettons, ils ont une coordonnée par les forces de l'ordre. Mais parfois, il peut arriver vraiment que des années s'écoulent et l'accompagnement ne sera pas du tout inutile pour autant, parce qu'on sera bien sûr amené à expliquer ce que l'on peut appeler la prescription, qui des fois peut être vraiment une vérité. Mais pour autant, il peut arriver des fois que même alors qu'une prescription peut être acquise, des gens estiment salvateur de déposer quand même plainte parce que enfin, cette fois, elles auront cheminé pour réussir à signaler les faits qu'elles ont subis, même donc des décennies auparavant.
Juste une dernière question par rapport à ce pôle victime, justement. Vous parliez de permanence, c'est-à-dire que, évidemment, il y a là, dans ces nouveaux locaux, on peut vous trouver tout le temps, à vos horaires d'ouverture, mais il y a aussi d'autres permanences dans le département qui permettent aussi de rencontrer vos salariés.
Tout à fait. On est présent sur trois autres villes du département, donc à Mayenne, Évron et Château-Gontier. Systématiquement dans ces villes, donc on peut nous trouver en gendarmerie ou en mairie, selon des journées que l'on pourrait tout à fait indiquer par téléphone, par exemple. Et puis, s'agissant de Laval, on est présent aussi en dehors de notre siège pour aller toujours plus près des gens, que ce soit au commissariat, que ce soit au tribunal, où on est d'ailleurs présent tous les jours, mais c'est aussi à l'hôpital ou encore en maison de quartier, dans la maison de quartier Saint-Nicolas. Et donc, ça permet justement d'être au plus près des personnes, de proposer les mêmes services selon donc des critères de gratuité, confidentialité, voire anonymat, ce qui est vraiment très important pour toutes les associations de notre réseau France Victimes.
Et donc, c'est ce que je disais donc en tout début, donc il y a deux pôles au sein de votre association et le deuxième concerne plutôt les auteurs. Donc c'est le côté prévention pénale dans le nom de l'association. Qu'est-ce que ça recouvre justement ce terme de prévention? C'est assez large hein, de ce que j'ai pu comprendre.
Oui, tout à fait. En fait, la prévention est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, que ce soit le fait de prévenir, de sensibiliser les gens, le grand public, des professionnels ou des scolaires, etc., concernant le fait d'éviter tout premier passage à l'acte, toute première infraction, mais aussi donc le fait de commettre de nouveaux faits alors qu'on a déjà pu être condamné, la récidive. Et donc en fait, à ce titre, on est amené à travailler justement auprès des auteurs, avant jugement ou parfois après, notamment donc pour contribuer à leur réflexion concernant la gravité de ce qui peut se passer à l'égard d'une victime, etc. On est amené donc à les recevoir dans nos locaux, mais aussi parfois donc au tribunal ou dans des lieux extérieurs. On va voir les gens en prison ou en maison d'arrêt pour pouvoir faire aussi des fois un état des lieux de leur parcours de vie et faire en sorte que les magistrats, qui des fois se demandent quelle peine prononcer face à la peine maximale encourue dans un texte, eh bien, donc il nous est demandé de pouvoir extraire des éléments sur la personnalité, le parcours de vie, de sorte à ce que la peine qui sera finalement prononcée soit la plus adaptée et qu'elle puisse être la plus acceptée possible, afin justement que la personne condamnée comprenne au mieux la réponse judiciaire et que du coup elle se réinscrive dans le droit chemin. C'est une casquette que l'on a aussi de délégué du procureur. Donc là, ça concerne des situations pour lesquelles le procureur en lui-même, alors qu'il se trouve face à un dossier, ne souhaite pas purement et simplement, je dirais, classer le dossier sans suite, ni pour autant réunir le tribunal dans le cadre d'une audience, mais il peut des fois se dire qu'un échange avec l'un de ses délégués, type notre association, peut être tout à fait pertinent, à la fois pour apporter une réponse judiciaire, une prise de conscience, et puis aussi, bien sûr, prendre en compte la réparation de la victime. Donc dans ces cas-là, on peut être amené à intervenir. Ça concerne des faits de gravité relative, de gravité quand même, mais de gravité relative. On intervient là donc au sein même du tribunal, et puis on est amené à du coup veiller aussi à la bonne indemnisation, par exemple, des victimes jusqu'à l'extinction, je dirais, entre guillemets, de la dette, quoi.
Peut-être être plus difficile à estimer, parce que quand vous faites de la prévention devant un groupe, c'est plus difficile à estimer. Mais est-ce que vous avez une idée du nombre de situations justement sur ce pôle auteur, par exemple là pendant l'année 2022?
Eh bien, s'agissant donc de notre volume global, je dirais, d'intervention auprès de nos usagers, on accompagne à peu près donc 1200 victimes à l'année, ce qui représente 2/3 de notre volume total, justement, d'intervention auprès des usagers. Et donc, le tiers restant, c'est auprès des auteurs.
On commence l'année 2023. Est-ce qu'il y a des grands projets pour vous, association, ou des tendances qui se dessinent, ou des choses pour cette année 2023?
Oui, alors cette année, donc j'entends de façon, voilà, dès que possible, pouvoir mettre en place un nouvel outil à destination de l'équipe, à savoir des analyses de pratiques ou des supervisions, parce que c'est souvent des parcours donc très lourds que l'on est amené à accompagner. Donc à ce jour, au sein de notre structure, il n'y a pas de superviseur, de personne extérieure qui intervient. Or, ça pourrait, voilà, être très riche. Et puis il y a quelque chose qu'on va à nouveau envisager aussi cette année, à savoir peut-être des mesures de justice restaurative. En fait, donc, en quoi consiste la justice restaurative? Ça consiste à mettre en présence des personnes qui le souhaitent, qui, par exemple, auraient été auteurs dans un certain dossier, je dis n'importe quoi, d'homicide, par exemple, et une famille ou une personne qui aurait été concernée par des mêmes faits en tant que victime, alors indirecte, qui aurait perdu quelqu'un suite à un homicide. Et donc, souvent, voilà, il peut être exprimé par chacune des parties le fait que il pourrait être bon de pouvoir échanger pour voilà, essayer de se reconstruire encore, etc. Et donc c'est un projet qui avait déjà été envisagé il y a quelques années par l'association, mais le personnel a changé, et c'est malheureusement cette réalité-là qui peut exister sur les autres territoires aussi, qui fait que certains projets n'avaient pas pu aboutir. Et en tout cas, voilà, on va essayer de tendre à nouveau vers ça, parce qu'il y aurait vraisemblablement des souhaits de justiciables en Mayenne, et donc peut-être, voilà, qu'on va tendre vers ça. À la base, donc, c'est même la cour d'appel d'Angers, dont on dépend, qui donc avait exprimé ce souhait de pouvoir avoir un acteur voilà, de son ressort qui puisse proposer des mesures de justice restaurative. Et vraisemblablement, le tribunal de Laval, s'agissant de sa juridiction pour mineurs, a aussi exprimé ce souhait-là et la pertinence qu'il y aurait à ce qu'un partenaire sur le territoire, alors peut-être d'ailleurs associé aux spécialistes, aux partenaires spécialisés dans la prise en charge des mineurs, puisse voilà, œuvrer et proposer ce type de réponse, qui d'ailleurs serait complémentaire aux réponses classiques de la justice, mais donc ça permet d'aborder les choses par un autre biais.
L'association Victimes et Prévention Pénale 53 est donc, a donc des locaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Donc les locaux, je rappelle, qui sont au 117 boulevard Montmorency à Laval. Vous pouvez aussi la joindre par téléphone au 02 43 56 40 57 ou par mail à secrétariat@vpp53.org, sachant qu'il y a aussi, c'est ce qu'on... On vient de dire lors de l'interview, on vient d'entendre, il y a plusieurs permanences à Laval, à la fois donc en dehors des locaux, au tribunal, au commissariat, à l'hôpital et à la maison de quartier Saint-Nicolas, mais aussi des permanences à Évron, à Château-Gontier et à Mayenne. Et on va faire une petite pause en musique avec Vampire Weekend Bambina, c'est tout de suite avant la chronique du FC Que Choisir.
Discuss it. Can't speak when the waves reach our house upon the dunes. Town cannot be trusted when the police. cha-cha bambina. No signs of injustice. For now, cha-cha, bambina. My Christian heart cannot withstand the thundering arena. I see you when the violence ends. For now, cha-cha, bambina.
Bambina Vampire Weekend dans l'AJT du local sur l'autre radio. L'autre radio, je vous le rappelle, que vous pouvez écouter à Château-Gontier sur le 107.9 et à Laval sur le 101.7. Et là, tout de suite, évidemment, on est toujours dans l'AJT du local. Et comme promis, évidemment, oui, promis, comme si c'était une grande promesse, je m'engage pas beaucoup puisque c'est surtout le moment d'écouter UFC Que Choisir en Mayenne qui propose sa chronique comme tous les 15 jours. Et aujourd'hui, on va parler voiture, oui, oui, et attention, conseil à suivre pour ne pas se faire avoir, notamment si vous avez une voiture récente en diesel. On écoute. Bonjour Jean-Michel Guinaudot. Dans cette chronique destinée aux consommateurs, vous m'avez dit vouloir dénoncer le scandale de l'AdBlue. Qu'est-ce que c'est déjà ?
Mais je reconnais que c'est un sujet un peu technique, mais qui risque de devenir aussi important que le Dieselgate, scandale concernant le trafic des mesures de pollution des voitures diesel. Et comme chacun sait, les moteurs diesel brûlent du gasoil et laissent derrière eux quantité de pollution et de particules fines. Pour réduire autant que faire se peut ces pollutions, les constructeurs ont mis au point des pots d'échappement spéciaux qui transforment ces polluants en produits inoffensifs. Et pour que ça marche bien, il faut y ajouter un produit appelé AdBlue. En fait, de l'urée. Chaque voiture diesel construite depuis 2019 et certains modèles depuis une dizaine d'années possède donc, à côté du réservoir d'essence, un petit réservoir d'urée qu'il faut régulièrement remplir, ce qui est fait lors des entretiens réguliers.
Mais d'où vient le problème ?
L'urée doit être injectée dans le pot d'échappement. L'ensemble se compose donc du réservoir, d'une pompe et d'un injecteur, associé à un système électronique qui gère la quantité d'urée injectée et signale toute anomalie au tableau de bord. Dans cet ensemble, il y a un élément plus fragile que les autres, c'est la pompe. Celui-ci peut lâcher au bout de 20 000 ou de 150 000 km en raison, semble-t-il, d'un phénomène de cristallisation de l'urée. Vous me direz, on change la pompe, ce ne doit pas être très cher. Mais les constructeurs ont conçu un ensemble réservoir-pompe-injecteur indissociable qui vaut, démontage et remontage compris, pas loin de 2000 euros. Et selon l'âge de la voiture, les constructeurs en prennent une partie en charge, mais au-delà de 7 ans, ils refusent toute prise en charge. Et même dans le meilleur des cas, ce sont plusieurs centaines d'euros qui restent à la charge du client.
Quelle attitude faut-il avoir alors si la panne nous arrive ?
Déjà, faire réparer son véhicule dans une concession ou un garage agréé par la marque qui pourra éventuellement négocier avec le constructeur. Puis faire une réclamation écrite au constructeur, en justifiant l'âge et le kilométrage du véhicule. La réponse a de fortes chances d'être négative. Il faut alors saisir le médiateur de la consommation de la marque. Cela a permis d'obtenir un complément sous forme d'avoir dans certains cas. Et l'UFC Que Choisir met en ligne une enquête pour connaître l'étendue des dégâts et envisage une action de groupe en justice au titre des vices cachés et de la non-réparabilité dans l'ensemble. Pourquoi remplacer trois pièces alors qu'une seule est défectueuse ? Nous vous conseillons de vous rendre sur le site de Que Choisir pour prendre connaissance du dossier et renseigner, si nécessaire, le questionnaire sur le sujet qui alimentera l'action en justice.
Merci Jean-Michel Guinaudot pour cet avertissement. Pouvez-vous nous rappeler les coordonnées de votre association au cas où nos auditeurs mayennais seraient en litige avec un professionnel ?
L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufckechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne et Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel.
Merci beaucoup Jean-Michel Guinaudot pour cette nouvelle chronique qu'on peut réécouter comme toutes les autres sur notre site l'autreradio.fr bien sûr. Vous cherchez dans les chroniques et la UFC Que Choisir de la Mayenne tout simplement et vous pourrez tout réécouter et noter les bons conseils bien sûr si le cœur vous en dit. Oui je viens d'utiliser cette expression. C'est la fin en tout cas de notre émission L'Agité du Local pour ce mercredi. J'espère que vous resterez à l'écoute de l'autre radio puisqu'à 19h il y a Novorama, 20h on enchaîne avec The Voice of Cassandre et à 21h avec Chaosphère où vous pourrez trouver pendant cette grande émission de 2h30 entendre d'ailleurs plutôt que retrouver les nouveautés Doom et Funeral Doom bien sûr dans cette émission Chaosphère. Et nous on revient demain jeudi toujours à 12h15, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle journée.